d'idéologie fondamentale pour le père Philippe à Saint-Joseph le 7 février 85.
Je réponds à cette question, quelle différence peut-on faire entre verbum in principio erat verbum, sermo, sermo tuus, veritas est. Pourquoi Saint Jérôme a-t-il distingué alors que le grec emploie dans les deux cas le logos? Oui, je vois très bien la question. Le grec implique logos dans ces deux aspects et Saint Jérôme met verbum et sermo. En fonction du contexte. Le mot logos grec peut signifier verbum et peut signifier sermo. Vous savez comment le mot logos est traduit actuellement en Sorbonne, habituellement, souvent, discours. Donc c'est sermo. C'est ordinairement comme ça, le mot logos. Et ils ont d'une certaine manière raison. C'est le mot le plus vague. Quand on dit verbum, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus précis. Et logos, verbum, ratio. C'est des termes. Alors c'est là où on voit tout de suite. Le langage n'est pas un absolu. Le langage est nécessairement quelque chose de relatif à ce qui est signifié par le langage. Alors, il ne faut jamais un purisme du langage au plan philosophique et au point de vue théologique. Il faut le comprendre en fonction du contexte. Alors, évidemment, c'est pas commode, je suis tout à fait d'accord, et les mots comme « logos » sont des mots qui ont des significations tellement multiples. Sermo sapientiae. Alors, en français, comme c'est difficile à traduire, et si logos, logos, le mot logos grec. Ça fait bien, c'est ce qu'on a dit, et c'est vrai le mot logos grec quand il apparaît. À quel moment le mot logos apparaît en philosophie? Ça vaut la peine, ce serait une petite étude pour ceux qui aiment bien la philologie, qui aiment bien les aspects différents, de voir à quel moment le mot logos apparaît. Héraclite. Héraclite, c'est l'homme du logos. Chacun des vieux pré-socratiques leur met une petite étiquette. Ils ont un galon, logos. Alors vous mettez ça là-dessus. Héraclite, c'est logos. Parménide, puisque Héraclite et Parménide, on voit très bien le parallélisme. Alors c'est toeinam, l'être. C'est pas la même chose. Et alors, il parle du legein. Le logos, c'est pas tout à fait la même chose que legein. Legetai, il dit. Vous voyez, quand vous dites polakos legetai, l'être se dit de multiples façons. Alors vous avez nettement le legein qui est le dire. Donc, sermo. Le sermo, c'est le dire. Mais le dire, il a un contenu. Et le contenu du sermon, c'est verbum, c'est ratio. Vous voyez? Alors, ça, c'est l'écorce. Le contenu conceptuel, verbum. Et le contenu objectif, ratio. Il y a des liens entre les deux, c'est pas du tout équivoque, c'est un lien entre les deux. Le fondement de toute pensée, ratio, ratio endis. Quand vous dites ratio, le fondement de toute intelligibilité. Ici, vous l'exprimez, vous le concevez, verbum. Verbum, c'est ce qu'on conçoit intérieurement. Et donc, le verbum est précisé par la ratio. Et le sermon, c'est ce qu'on dit. On le dit. On dit normalement ce qu'on conçoit. Normalement. On dit ce qu'on conçoit. Et en le disant, on le communique. Donc le legai, c'est communiquer ce qu'on conçoit, le verbe. Et ce qu'on conçoit, c'est ce qui, dans la réalité, ce qui reste. Ce qui, dans la réalité existe en nous. Ce qui, dans la réalité, est conçu. On ne conçoit pas d'une façon exhaustive la réalité, on la perçoit, on la touche. La ratio formalis, la raison formelle sur laquelle on saisit quelque chose. On saisit quelque chose de la réalité, mais la même réalité peut être saisie scientifiquement, philosophiquement, poétiquement. La lumière est saisie par le poète, autrement par le philosophe, autrement par le savant. Et vous avez toujours, c'est la lumière, c'est cette réalité que vous saisissez. La ratio formalis, vous la saisissez sous tel aspect. Et quand vous la saisissez sous tel aspect, vous la concevez, verbum, et vous la dites, sermum. Oui, donc il faut bien saisir qu'il y a des moments différents sous lequel, de fait, vous regardez l'intelligibilité fondamentale ratio. Ça se fonde. Quand vous dites que l'intelligibilité est propriété de l'être, la propriété de ce qui est, la res existante, a une certaine intelligibilité ratio. Cette intelligibilité, vous la concevez verbum. Et puisque vous la concevez, vous le dites serment. Donc ce n'est pas opposé, c'est tout simplement des moments différents dans lesquels vous saisissez cette même réalité, cette intelligibilité qui se fonde dans la réalité, que vous saisissez et que vous dites. Alors il ne faut surtout pas confondre ces moments, le dit, chéré, le legai, le tout legai, n'est-ce pas, le verbum, le verbe intérieur, verbum mentis, comme dira Saint-Germain. Verbum mentis ou verbum cordis, le verbe du cœur. Le verbe du cœur, c'est le secret. On dit déjà un secret. C'est le verbum cordis, hein. C'est le verbe du cœur que vous saisissez. Et ce verbum cordis, il sait saisir justement ce qu'il y a de plus secret dans un être. Et ce qu'il y a de plus secret en dernier lieu, c'est sa ratio intis. Mais ce n'est pas un secret, la ratio intis, hein. J'ai saisi un secret, la raison d'un être, la ratio, le logos. Donc vous voyez les moments différents. Dans la réalité, dans l'esprit et la communication. Alors on comprend très bien que lorsqu'il s'agit in principio erat verbum, enarché, en grec, hein, enarché, logos, en. Donc enarché, dans le principe, dans la source, le verbe. C'est pas le dire. Alors on traduira d'une façon qui n'est pas tout à fait juste, ça c'est les traductions qui viennent surtout de tout un courant plutôt allemand qui disent la parole. Au commencement était la parole. Hein. Mais vous avez remarqué que dans la Tobe, on traduit erat verbum. On a vu Saint Jérôme, tandis que dans les traductions protestantes antérieures à la Tobe, on dit toujours la parole. Alors, la parole, ce serait, c'est logos, oui, je veux bien, c'est le dicere, la parole, c'est le dire. Mais je crois que parce qu'on dit in principio erat verbum, donc dans le secret, dans la source, était le verbe. Le verbe, c'est un secret. Verbum cordis. Et en Dieu, c'est toujours verbum cordis. Donc le verbe provient du cœur de Dieu. C'est pour ça que c'est verbum cordis, c'est un secret. Alors, il suffit de comprendre le contexte. Quand vous avez logos, faites attention au contexte. Ne traduisez pas automatiquement sermo. Ne traduisez pas automatiquement discours. Faites attention. Ça dépend des moments. Mais le mot logos exprime tout ça. Actio, verbum, sermo. Continuons à entrer dans le mystère de la parole. Donc, sermo, c'est le point de vue de la parole. Je vous renvoie toujours à ce grand texte, il ne faut jamais l'oublier. C'est le texte majeur. Hein? Alors, il y aurait tous les autres textes mineurs qui seraient très intéressants à voir à travers toute l'écriture. Je vous l'ai dit, faites vous-même, quand vous lisez toute l'écriture, faites vous-même ce petit tableau synthétique, chaque fois que Dieu, chaque fois que l'Esprit Saint exprime ce qu'est la parole de Dieu. Et chaque fois que l'Esprit Saint exprime ce que c'est que la parole de Dieu, il faut que nous puissions faire une théologie de la parole de Dieu et comprendre que la parole de Dieu exprime toujours le verbum. Saint Thomas nous dit, dans chaque parole divine, parole de la révélation, le Verbe est présent. C'est très beau ça. Et c'est vrai, chaque parole divine exprime le Verbe. Le Verbe, seconde personne de la très sainte Trinité. Et c'est bien ce qui est dit au début de l'Épître aux Hébreux. Hein. Après avoir à bien des temps, à bien des reprises et de bien des manières, parler jadis à nos pères par les prophètes. Dieu, en cette fin des jours, nous a parlé par le Fils, donc par le Verbe. Alors, la multiplicité et l'unité. La multiplicité des prophètes, la multiplicité des temps, et le Verbe, qui arrive au terme, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a fait le monde. Ça aussi c'est très important, pour voir comment on voit l'unité de toute la révélation, et le sommet. Il y a une grande montée de toute la parole de Dieu vers un sommet, qui est la parole de Jésus. L'autre jour, le texte qu'on lisait dans Saint Marc, hein, il ne parlait pas comme des scribes. Ben, dites, il ne parlait pas comme des théologiens. Il parlait avec autorité. On voit très bien. Il parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité parce qu'il est le Verbe. Parce qu'il est le Verbe, il parle avec autorité. Son logos, son dire, est lié directement à la lumière. Et c'est pour ça qu'il parlait avec autorité. Il n'a pas besoin de mettre une autre référence. Tandis que quand on ne parle pas avec autorité, c'est-à-dire quand on parle comme un théologien, on met une référence. Et la référence, c'est la foi. Et la foi se ramène au Verbe de Dieu. Est-ce qu'on essaiera de comprendre ça? C'était quelque chose de très important. Efforçons-nous donc, chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, hein, et faites-vous à vous-même progressivement cette petite théologie de la parole de Dieu. Je l'ai faite, je vous l'ai déjà dit, et je l'ai prêtée à un père dominicain, et puis je ne l'ai jamais revue, alors c'est dommage, mais je devrais la refaire, ça m'intéresse, c'est une chose passionnante à faire, et il faut le faire soi-même. Parce que si on regarde une référence, hein, une concordance, ça ne va pas. Il faut lire toute l'Écriture avec ce souci de découvrir ce que l'Esprit Saint nous dit sur la parole de Dieu. Parce que l'Esprit Saint nous dit ce qu'est la parole de Dieu. Pour que nous comprenions mieux qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu comparativement à la parole humaine. C'est ça qu'on essaie de comprendre, hein, ici. On essaie de comprendre comment la parole de Dieu et la parole humaine sont totalement différentes, à l'eau, hein? Autre. Et cependant, il y a un petit koinon. Il y a quelque chose de commun. Des deux côtés, c'est la parole. Parole de Dieu, parole humaine. Et c'est pour cela que le théologien peut faire la mixture. Si la parole de Dieu et la parole humaine étaient hétérogènes, c'est-à-dire le allo-allo sans quelque chose de commun, tout à fait autre, sans quelque chose de commun, il n'y aurait pas la théologie. C'est toujours très important de comprendre comment il peut y avoir la théologie. Hein. Si Dieu avait inventé une langue, il aurait pu le faire, hein. Ça aurait été merveilleux. Tout baptisé, du fait même qu'il était baptisé, aurait reçu un don particulier de parler une langue de baptisé. Et nous ferions les cours de théologie en langue de baptisé. Et là, tous ceux qui ne seraient pas baptisés ne comprendraient rien du tout. Ils diraient, ils parlent en langue. Mais ils parleraient en langue de baptisé. C'est-à-dire qu'ils auraient donc un langage que tous les baptisés comprendraient. Alors on comprendrait très bien que par curiosité, certains se feraient baptiser. N'est-ce pas ? Par curiosité uniquement, tous ceux qui aiment les langues se feraient baptiser pour avoir une nouvelle langue. Eh bien Dieu n'a pas voulu faire ça. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que la foi se cache. Tandis que là, la foi ne se cacherait plus. On aurait un charisme lié, vous voyez, là vous voyez bien ce que c'est que le charisme, vous auriez un charisme lié à la grâce du baptême. Et à la grâce du baptême serait lié ce sermon, ce discours, cette parole propre au baptisé. C'est important de comprendre ça. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu parler le langage des hommes. Dieu n'a pas inventé de grammaire, Dieu n'a pas inventé de philosophie. Et c'est pour ça qu'il laisse à l'homme le souci d'être intelligent et de respecter la grammaire. C'est merveilleux comme respect de Dieu pour l'homme. Hein. Il va jusque-là. Et Dieu respecte même la logique. Vous voyez ? Il va jusque-là, respect la grammaire et la logique. Il respecte le langage de l'homme. Et parce que Dieu prend le langage de l'homme, il peut y avoir une théologie. De la possibilité d'une théologie. Ce n'est pas la seule condition, hein, mais c'est la condition fondamentale. C'est très important, parce que si Dieu n'avait pas prévu la théologie, René, il aurait parlé un autre langage. Et c'est vrai que s'il y avait eu un langage propre au baptisé, le baptisé parlerait la langue du baptisé et la langue de Dieu, et il n'y aurait pas de théologie. Autrement, on ferait un mixte effrayant. Alors, il n'y aurait pas de baptisé. Il n'y aurait pas de théologie. Tandis que là, il y a une théologie possible. Alors, c'est la première condition de la théologie. Il y en a une seconde. Hein. Il faudra comprendre toutes les conditions pour lesquelles la théologie puisse exister. C'est quand même un des aspects du cours, ça. Puisque c'est le mystère de la parole de Dieu, pour essayer de comprendre la parole de Dieu et la parole humaine. Et comment peut se faire le lien entre les deux. Est-ce que la théologie est une parole divine ? Posez-vous la question. Est-ce que la théologie est une parole divine ? C'est une parole qui provient de la parole de Dieu. Mais la conclusion théologique n'est pas une parole divine. C'est une parole d'homme croyant, intelligent. Ce n'est pas une parole divine, d'une façon absolue. Quand saint Thomas dit « Dieu est tout à fait simple », ça c'est une conclusion théologique, vous ne le trouverez nulle part dans l'Écriture. Dieu est tout à fait simple, et c'est le premier article de la somme. C'est là où on signe la théologie existe, parce que c'est la grande conclusion théologique. Il n'y aurait que cette conclusion, la théologie existe. C'est extraordinaire ça. Dieu est tout à fait simple. Quand de fait saint Thomas conclut « Dieu est tout à fait simple », premier article, question, n'est-ce pas, immédiatement après avoir traité ce que c'est que la théologie, comment nous pouvons prouver l'existence de Dieu, immédiatement, article 3, question 3, « Dieu est tout à fait simple ». Bien, vous cherchez à travers toute l'Écriture, vous ne trouverez pas cette conclusion, cette affirmation, cette énonciation, « Dieu est tout à fait simple ». Bon, c'est la première conclusion du théologien. Cette conclusion n'est pas une parole divine. c'est la conclusion d'un théologien. C'est très respectable, c'est merveilleux, c'est vrai. C'est l'objet de la contemplation. Oui, vous contemplez la simplicité de Dieu. C'est l'objet de la contemplation, mais je ne peux pas dire que c'est une parole divine. La parole du théologien n'est pas une parole divine. C'est une parole qui provient de la parole de Dieu. Et il y a tout l'effort du théologien qui s'est ajouté et qui fait que ce n'est pas au sens strict une parole divine. C'est virtuellement une parole divine. Mais explicitement, c'est la parole d'un théologien. Alors, regardons ce qu'est la parole divine. Et à partir de là, on comprendra comment nous pouvons faire de la théologie. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. C'est bien que ça commence comme ça, non ? Il faut toujours s'efforcer d'entrer dans ce repos. Mais ce repos, c'est le repos de Dieu, hein ? C'est le repos du Créateur qui se repose après avoir créé. C'est-à-dire, c'est le mystère de la contemplation de Dieu. Le repos de Dieu, c'est sa contemplation. Et c'est comme ça que tous les pères de l'Église l'ont compris. Le repos de Dieu, c'est sa contemplation. Quand vous ne travaillez plus, vous contemplez. Si vous êtes enfant de Dieu. Et quand vous dormez, c'est autre chose. Ce n'est pas votre véritable repos d'enfant de Dieu. Ce n'est pas le repos divin à ce moment-là. C'est le repos du petit animal qui est fatigué en nous. Tandis que le repos de Dieu, c'est la contemplation. Et forçons-nous d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe à l'exemple de cette désobéissance. Car elle est vivante, la parole de Dieu. Premier caractère, hein? Elle est vivante. Elle est efficace. Plus affilé qu'aucun glaive à double tranchant. Donc, l'aspect de pénétration de la parole de Dieu, qu'aucun glaive à double tranchant, la comparaison du glaive, la parole de Dieu est un glaive, elle est comme un glaive. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. Chapitre 4, verset 13. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. Alors voyez, l'âme et l'esprit, psyché pneuma. Très intéressant ça. Des jointures et des moelles. Ça, la biologie, hein, des jointures et des moelles. Le scapelle de l'Esprit Saint par la parole de Dieu. Qui fait des séparations comme ça. L'Esprit Saint, c'est normal, hein, il est chirurgien depuis la création de la femme, Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il a été chirurgien, symbolise le chirurgien. Parce qu'il a pris la côte de l'homme, il a plongé l'homme dans la torpeur. Un bon chirurgien, pour ne pas faire mal. Parce qu'autrement, s'il avait fait mal, l'homme aurait vis-à-vis de la femme un vieux ressentiment, n'est-ce pas, extraordinaire, en disant... Dieu m'a fait mal pour... Non, il l'a plongé dans la torpeur pour que l'homme ne se souvienne de plus rien du tout. Et puis, il a fait la femme. Extraordinaire, hein. Chirurgien. Il y a le potier chirurgien. C'est très curieux, ça. Il y a deux aspects, là. Il faudrait voir les alliances entre le potier et le chirurgien pour bien comprendre ce que ça signifie, ce langage symbolique. On va voir ça, on va voir du reste, hein. Bien comprendre ce point de vue-là. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Elle juge, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'est pas de créature invisible devant elle. Toujours la parole. Parce qu'elle est vivante. Tout est à nu et mis à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est très beau ce passage, hein, un passage merveilleux pour découvrir ce qu'est la parole de Dieu. Alors, le Père Hostie met en note la parole de Dieu. Il ne s'agit pas du Verbe, mais de la parole de Dieu personnifiée d'une manière poétique et oratoire. On voit très très bien, plus affilé qu'aucun glaive à double tranchant. Alors, on renvoie, c'est évident que c'est un aspect qu'on retrouve assez souvent, Éphésiens 6, 17, Apocalypse 2, 12, Isaïe 49, 2. Elle pénètre jusqu'à la séparation, ou elle va jusqu'à séparer. C'est plutôt, elle va jusqu'à séparer. Elle réalise la séparation, parce qu'elle est efficace. Elle réalise la séparation. La parole de Dieu divise, parce qu'elle pénètre. Pour pénétrer, elle divise, elle sépare. Alors, le point de vue du cœur, donc elle pénètre au plus intime du cœur, 1 Colossiens 4, 5, et puis Jean 12, 48. Donc, on pourrait retrouver, puis alors, le fameux passage, hein, où la parole de Dieu est une semence. C'est dans Saint Luc, et c'est dans le poète, c'est dans, je veux dire, le prophète, Isaïe. Hein? La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est comme la rosée. Tout lié, tout, et il y a tout un aspect de fécondité qui est lié à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est liée à l'amour. La parole de Dieu est inséparable à l'amour. C'est une parole aimante. C'est ça que nous allons essayer de préciser. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un professeur, heureusement pour le croyant. Pourtant, on est disciple. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un mathématicien, ou d'un savant, ou d'un philosophe. La parole de Dieu est la parole d'un père, et c'est la parole d'un époux. Alors, c'est la parole d'un père et d'un époux, c'est donc une parole qui est toujours liée à l'amour. C'est toujours lié à l'amour. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Si elle juge les intentions du cœur, c'est donc verbum cordis. Hein? Verbum mentis. La parole de Dieu possède une intelligence. On se fait disciple de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu implique une note affective. C'est une parole de père, c'est une parole d'époux. Et c'est une parole qui est symbolique. Toujours. Poétique et symbolique. Et c'est pour ça que quand la parole de Dieu elle-même se définit d'une manière poétique, ça ne peut pas être autrement. Alors on va essayer de préciser maintenant, mais c'est important, parce que ça fait comprendre comment la foi reçoit une parole toujours affective. Vous voyez, la théologie scientifique n'est pas exhaustive par rapport à la parole de Dieu. La théologie mystique n'est pas exhaustive par rapport à la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu implique toutes ces richesses que nous sommes obligés d'extraire de la parole de Dieu toutes ces dimensions. Et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Que je ne peux pas regarder la théologie uniquement comme une théologie scientifique. Parce que la parole de Dieu est plus riche que uniquement le verbum mentis. Si la parole de Dieu était la parole d'un professeur, d'un philosophe, la théologie scientifique exprimerait peut-être d'une manière parfaite ce qui est impliqué dedans. Mais comme la parole de Dieu, c'est la parole d'un père et d'un époux, c'est toute une parole affective qui implique un amour et qu'il faut que cette parole s'exprime aussi par une théologie mystique. Le fondement de la théologie mystique, c'est le mystère de la parole de Dieu. Et parallèlement au mystère de la parole de Dieu, le mystère de la foi. Nous précisons ce qu'est la foi à partir de la parole de Dieu. C'est à partir de la parole de Dieu que nous comprenons mieux ce que c'est que la foi. Et tous les caractères particuliers de la parole de Dieu nous aident à comprendre ce qu'est la foi. Et pas l'inverse, hein, puisque la parole de Dieu est reçue par le croyant. Exactement comme l'être est reçu dans l'intelligence, ce qui est, ens cadit in intellectu, c'est par l'être que je précise ce qu'est l'intelligence. C'est par la parole de Dieu que je précise ce qu'est la foi. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous d'essayer de comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Et une fois qu'on a compris ce qu'est la parole de Dieu, on voit tout de suite ce que peut être la foi, et à partir de là, ce que doit être la théologie. Puisque la théologie est au service de la foi. Elle permet d'expliciter le mystère de la parole de Dieu. Une théologie qui n'explicite plus la parole de Dieu n'est plus une théologie. Et toutes les déviations théologiques proviennent justement du fait qu'on n'explicite plus ce qu'est la parole de Dieu. Alors, on va regarder les caractères de cette parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée ici, puisque c'est le lieu majeur, le lieu par excellence, pas le seul, hein, comprenez bien. Parce que vous pourriez ajouter la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est vérité. Tout ça est impliqué dedans. Alors, premièrement, elle est vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une parole vivante? Pour saint Thomas, en théologien, quand il exprime qu'est-ce que c'est que la parole vivante, c'est la parole qui est conjointe à sa source. C'est l'eau vive, à la différence de l'eau de puits. Saint Augustin a fait des considérations très longues là-dessus, très bonnes à lire au réfectoire, hein, les considérations de l'eau de puits et l'eau vive. L'eau de puits, c'est l'eau stagnante. Et l'eau vive, c'est l'eau qui est liée à sa source. Eh bien, la parole vivante, elle est liée à la source. Et c'est vrai, une parole vivante, elle est liée à sa source. Tandis qu'une parole qui est une répétition n'est plus une parole vivante. Quand vous répétez, alors, quelle est la source de la parole? La source de la parole, pour nous, hein, pour nous, je dis bien... Parce que dans la perspective heideggerienne, ce serait peut-être un petit peu différent. Alors c'est là où il faudrait se demander comment Heidegger peut-il expliquer une parole vivante. Expliquons d'abord pour nous, puis après on viendra à Heidegger, c'est intéressant. Parce qu'on essaie de comprendre, comment la philosophie moderne peut-elle expliquer la parole de Dieu. C'est quand même intéressant ça. Alors... Pour nous, la parole vivante, c'est quoi? Quelle est la source de la parole? Donc, le sermo sapientiae, ça c'est la parole. La parole est ici. Le sermo, c'est le logos, la parole, la communication, la parole qui est tournée vers un autre. Je parle pour un autre, normalement. De temps en temps, je me parle. Mais je le sais. Quand on ne le sait pas, c'est gênant. N'est-ce pas? Mais je me parle. Quand je me parle, c'est pour me réveiller. Hein? Parce que méditation, je me tais et je m'endors. Alors, je me parle pour me réveiller. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand on fait la méditation en commun, quelquefois, les gens s'endorment. Quand on fait la méditation ou l'oraison en privé, si on s'endort, on se lève, on se parle, on dit tout, un psaume, ça réveille. On se parle pour se réveiller, ça c'est sûr. Normalement, on parle à un autre. La parole, c'est une communication vers un autre. La communication d'un verbum mentis, d'un secret. Le verbe est invisible. Donc, la parole humaine est vivante quand elle est liée à sa source, c'est-à-dire quand elle est liée à la pensée actuelle. Quand vous pensez actuellement ce que vous dites, vous êtes en face d'une parole vivante. On découvre tout de suite si on a affaire à quelqu'un qui a une parole vivante, c'est-à-dire il la pense actuellement. Tandis que si vous êtes en face d'une répétition, c'est que lorsque la parole n'est pas liée à la parole, à sa source, alors elle n'est plus vivante. Elle est dans la mémoire ou sur le papier. Bon, alors à ce moment-là, je ne pense pas. Donc, c'est plus une parole vivante. La parole vivante, elle est liée à sa source. Alors ici, quelle est la source de la parole divine? Vous voyez, il y a deux sources. Première source, de la parole divine en tant que parole divine. C'est le Verbe. Le Verbe, deuxième personne de la très sainte Trinité. Ou, si vous voulez, parce que ça, nous pouvons le dire à partir de la révélation de la deuxième personne de la très sainte Trinité, mais quand Dieu parle à Abraham, c'est une parole vivante. C'est évident, c'est une parole vivante. Quelle est la source? C'est la lumière. C'est Dieu. Dieu en tant que lumière. Donc, c'est Dieu qui se connaît. C'est Dieu qui se contemple. Toute parole exprime la contemplation de Dieu lui-même. Puisque c'est une parole vivante, donc elle est liée à la source. Dieu, lui, n'a pas de mémoire. Il n'a pas besoin d'en avoir, puisqu'il contemple toujours éternellement. Et donc, dès que Dieu parle, c'est toujours une parole vivante. Puisque Dieu ne parle pas en prenant des réserves, hein, des choses anciennes. C'est toujours une parole vivante. C'est la contemplation de Dieu qui m'est communiquée. C'est la contemplation de Dieu qui m'est dite. C'est pour ça que c'est toujours une parole vivante. C'est très important, ça. Et donc, comme la source de cette parole est éternelle, cette parole vivante, en tant que vivante, est au-delà du temps. Elle a quelque chose d'éternel. Autrement, elle ne serait plus une parole vivante. Donc, en disant que c'est une parole vivante, on montre que cette parole est au-delà du conditionnement du temps et du lieu. C'est donc une parole qui dépasse le conditionnement du temps et du lieu. Autrement, elle ne serait pas une parole vivante. C'est une parole vivante, elle est liée à sa source, et la source est la contemplation de Dieu, et la contemplation de Dieu est éternelle. Et donc cette parole de Dieu est toujours actuelle. Quand je dis que c'est une parole vivante, je veux dire que c'est une parole qui est toujours actuelle. La parole que Dieu a adressée à Abraham, en tant que croyant, tout croyant peut la recevoir. Elle est vivante. Elle était au-delà du temps. C'est ça qui est merveilleux, hein, quand je dis ça. Vous voyez, ça fait tomber des quantités de choses. Parce que il faut avoir l'expérience dans la foi que la parole de Dieu est une parole vivante, donc une parole actuelle, qui me relie actuellement à la contemplation de Dieu. Cette parole, elle m'est donnée à travers un instrument. C'est sûr, ici je regarde la parole de Dieu en elle-même. Hein. Le Père aussi dit, on personnifie. J'aime pas beaucoup dire qu'on personnifie la parole de Dieu, parce qu'en réalité on ne la personnifie pas du tout. C'est pas vrai qu'on la personnifie. Il dit qu'on la personnifie parce qu'il dirait que la parole en soi. Et c'est pas dit, on ne dit pas la parole en soi, on dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme ça. Mais elle est de fait au-delà du temps. Alors on n'a pas besoin de personnifier quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà des conditions du temps et de lieu. La parole de Dieu, elle est vivante parce qu'elle est liée à sa source. Et la source première de la parole de Dieu, c'est le Verbe, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu, c'est sa contemplation. C'est pour ça qu'on dira que l'auteur principal de la parole de Dieu, l'auteur principal de la révélation, c'est l'Esprit Saint. Et ceci montre que c'est vraiment Dieu qui, dans sa contemplation, est source de toute parole divine. Quand Dieu se sert d'un instrument, Il se sert d'Abraham. Il se sert d'un auteur spirituel, d'un auteur qui nous transmet ce que Dieu a dit à Abraham. Il se sert de Jean. Il se sert de Luc. Il se sert d'un instrument. Est-ce que la parole de Dieu est vivante à cause de son instrument? Il faut se poser les questions au point de vue théologique avec le plus de netteté possible. Est-ce que la parole de Dieu est vivante à cause de son instrument? C'est-à-dire parce que Jean, en transmettant la parole de Dieu, en a vécu. C'est ça qui est intéressant. C'est pour comprendre le petite remarque du père Hostie. Hein. Il n'est pas bête, le père Hostie. Alors, quand il dit ça, c'est intéressant. Il fallait connaître le père Hostie. Hein. C'était quelqu'un de merveilleux. C'était un paysan. On aime toujours de rencontrer des exégètes paysans et des théologiens paysans. Ils savent ce que c'est. C'était merveilleux. Alors, il personnifie, j'aime beaucoup cette petite remarque, hein. Il ne s'agit pas du Verbe, mais de la parole de Dieu personnifiée d'une manière poétique et oratoire. Est-ce que, quand j'ai dit la parole de Dieu est vivante, hein, c'est dit textuellement, elle est vivante. Est-ce qu'on fait appel à la source première ou à la source instrumentale? Posez la question. C'est très important, ça a beaucoup de conséquences. Hein. Vous voyez, si on touche ça, ça a d'immenses conséquences. Eh bien, je crois qu'on peut dire que ce n'est que la source principale. Elle est vivante parce qu'elle provient directement de Dieu. Par l'intermédiaire d'un évangéliste, par l'intermédiaire d'un prophète, c'est très vrai. Mais elle n'est pas vivante à cause de la cause instrumentale. Elle est vivante à cause de la cause principale. Dès qu'on comprend un tout petit peu ce que c'est que l'instrument, on ne peut pas dire qu'elle est vivante à cause de la cause instrumentale. L'instrument, normalement, doit être un peu secoué par la parole vivante de Dieu. C'est évident que quand Jean transmet l'Apocalypse, il a été assez secoué. Je comprends très bien, il a vécu ça. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a vécu que cette parole est vivante. Autrement, on dirait que c'est la parole de Jean. C'est la parole de Jean. Quand Jean parlait à Marie, c'était une parole vivante, parce qu'il disait son cœur. C'est la parole verbum cordis. Mais l'Apocalypse n'est pas la parole de Jean, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Christ. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est donc la cause principale, l'Esprit Saint, qui est regardé en premier lieu. L'instrument est télescopé. Je crois que c'est à cause de ça qu'il dit « personnifie la parole ». Vous voyez, ça, c'est très amusant pour l'exégète. Hein? Parce que pour l'exégète, la parole de Dieu, elle se transmet à travers un instrument. Alors, il regarde l'instrument, lui, l'exégète. Souvent, en premier lieu. Et il oublie de temps en temps la cause principale. Alors, on voit très bien. Regarder uniquement la cause principale, c'est donc personnifier cette parole. C'est pas personnifier la parole, c'est tout simplement la parole de Dieu est comme ça, parce qu'elle provient directement de Dieu. C'est pas la parole en soi, non, c'est la parole divine. Elle est liée à sa source, elle est liée à sa cause principale. Donc elle est vivante, et c'est ça qui ça veut montrer qu'elle est liée à sa source, directement. Et donc elle ne peut pas se séparer de sa source. La parole de Dieu, comme parole de Dieu, est toujours liée à sa source. Autrement, ce n'est plus la parole de Dieu. Elle est toujours liée à sa source. Et c'est pour ça qu'elle est toujours actuelle. Et c'est pour ça que dans la foi, je peux tout le temps la recevoir comme une parole qui m'est adressée. Parce qu'elle est adressée à tous les croyants. Elle est adressée à un en particulier et en même temps à tous les croyants. Elle est vivante. C'est très très fort ça. Elle est vivante. Elle est efficace, la parole de Dieu, elle est efficace. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu crée par sa parole. Et parce que Dieu crée par sa parole, la parole de Dieu est efficace. Elle réalise ce qu'elle signifie.